Formidable. Donc il est 17h. Jacques Lecomte aura 3 quarts d'heure et nous aurons 1 quart d'heure, Pierre et moi, pour conclure. À 18h, vous serez sortis. Voilà. Le cadre est posé et Jacques Lecomte est d'accord pour laisser un temps de questions. Donc il va faire combien, Jacques, vous m'avez dit? Une demi-heure, un quart d'heure? Bon, il va se laisser un peu sentir, parce qu'on n'est pas que dans le cognitif. Voilà, en gros, une demi-heure, un quart d'heure de questions. Donc, vous êtes le conférencier qui concluait ce colloque, et notamment sur la question du sens, puisque trauma et sens. Alors, le trauma peut-il redonner un sens à la vie? Je ne sais pas, personne n'a vraiment répondu à cette question, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Chacun peut y réfléchir.
C'est dur, hein?
Non, vous allez nous parler de la psychologie positive et de la résilience, qui est effectivement un thème connexe à celui de trauma. Vous êtes docteur en psychologie, président d'honneur de l'Association française de psychologie positive, ce qui n'est pas marqué sur la brochure. Non, deux mots. Et vous avez enseigné donc à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre, à la Faculté des sciences sociales et à l'Institut catholique de Paris. Je vais citer vos ouvrages principaux, un que j'aime beaucoup qui s'appelle « La bonté humaine ». Et vous étiez venu il y a 3-4 ans ici pour parler de la bonté. Ça nous avait réchauffé le cœur. Et dernier livre, « Donner un sens à sa vie ». Et là, vous êtes vraiment dans le sujet. Donc je n'en dis pas plus et je vous laisse conclure ce colloque.
Bonsoir à toutes et à tous. Et, c'est toujours une responsabilité de conclure un colloque, mais c'est mieux de le faire maintenant qu'en début d'après-midi, parce qu'avec la sieste de 2 heures, c'est toujours délicat. Donc même si vous êtes fatigué, au moins les esprits sont plus réveillés. Alors, d'abord, effectivement, faire un lien entre la psychologie positive et puis le trauma, la résilience, le sens, je voudrais un peu aborder ces points. Alors, rapidement, parler de la psychologie positive, mais vraiment en quelques mots. Alors, la plupart d'entre vous doivent commencer à connaître un petit peu. Donc, je vais être rapide. La psychologie positive, eh bien, c'est un courant de recherche qui est né à la fin du dernier siècle, voire du dernier millénaire, sous l'impulsion du président de l'époque, donc, de l'Association américaine de psychologie, Martin Seligman. Martin Seligman qui a dit ceci: nous connaissons peu ce qui donne de la valeur à la vie. Ceci vient de ce que depuis la Seconde Guerre mondiale, la psychologie est devenue en grande partie une science de la guérison. Elle se concentre sur la réparation des dommages au sein d'un modèle du fonctionnement humain axé sur la maladie. Cette attention presque exclusive sur la pathologie néglige l'individu épanoui et la communauté prospère. Quand nous sommes devenus seulement une profession de guérison, nous avons oublié notre mission plus large, celle d'améliorer la vie de tous les gens. Alors que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de quiproquo, les défenseurs, en quelque sorte, les diffuseurs de la psychologie positive, dont je suis, eh bien, ne disent pas toutes les connaissances qu'on a sur la psychopathologie, on les vire, on les met à la poubelle. Bien sûr que, à partir du moment où, avec la psychologie comme science naissante, eh bien, on était conscient de la souffrance psychique de nombreux individus, il a fallu essayer de soulager cette souffrance. Et c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup, il y a une sorte d'unifocalisation qui s'est faite autour des difficultés, des souffrances, voire des pathologies. Alors, la psychologie positive, ça se développe, j'ai envie de dire, c'est tendance. Voilà, c'est très à la mode aujourd'hui. Et il y a une tendance à considérer que la psychologie positive, c'est la psychologie du bonheur. Et ça, c'est vraiment tendance. Ça fait les couvertures de magazines en été. Et moi, j'ai parfois eu des journalistes qui m'ont dit « Alors, vous êtes le spécialiste du bonheur ?» Alors, j'ai dit « Non, non, je suis un spécialiste de psychologie positive. Ah, »« Mais c'est pareil !» Non, il y a une petite différence. Enfin, en gros, oui, le bonheur fait partie de la psychologie positive, mais la psychologie positive ne se réduit pas au bonheur. Et c'est très important. Alors, pour vous dire qu'il y a une sorte de définition officielle aujourd'hui de la psychologie positive à laquelle je suis très attaché, qui dit ceci: la psychologie positive, c'est l'étude scientifique des conditions et des processus qui facilitent, qui permettent le développement optimal des individus, des groupes et des institutions. Deux éléments que je souhaite souligner, c'est une discipline scientifique, ça s'étudie, ça s'enseigne dans des facultés. Et puis le deuxième point, surtout, c'est la fin, développement optimal des individus, des groupes et des institutions. À partir de là, si vous voulez, l'idée, c'est que la psychologie positive, c'est, il y a un premier niveau, l'individu. Alors effectivement, des travaux sur le bonheur, mais pas seulement, sur la résilience, sur le sens de la vie, sur l'optimisme, sur la motivation. Vous voyez, déjà le champ est plus large que simplement une réduction au mot bonheur. Mais ça n'est pas que le premier niveau. Il y a le niveau personnel et le niveau interpersonnel. Le niveau interpersonnel, vous avez des travaux sur la gratitude, sur l'empathie, sur la coopération, sur le pardon, sur le respect, sur la confiance en l'autre. Et puis, il y a ce troisième niveau. J'ai dit des individus, des groupes et des institutions. Il faut comprendre que des valeurs, des attitudes telles que celles que je viens de citer, la coopération, l'empathie, la confiance, etc., eh bien, ont non seulement un effet positif dans nos relations interpersonnelles, mais potentiellement peuvent avoir un impact sur la société, un impact social, voire sociétal, politique même. Et vous avez des travaux qui montrent l'intérêt de la psychologie positive dans des domaines tels que l'enseignement, tels que la justice, tels que la santé publique, tels que les organisations, entreprises et autres, et toutes sortes de domaines. Donc vous voyez, on est très loin du petit bonheur personnel. Je vous donne un exemple sur la dernière partie. Par exemple, au niveau des relations internationales, il y a des travaux de psychologie qui étudient les processus de psychologie cognitive ou de psychologie sociale dans les relations, dans les négociations internationales. Comment ça se passe dans des négociations internationales, donc des pays qui sont potentiellement, qui sont en conflit, qui sont potentiellement, qui risquent de rentrer en guerre, eh bien, ou qui essayent d'en sortir, eh bien, comment les aspects psychologiques peuvent jouer. Donc vous voyez qu'on est très très loin du petit bonheur narcissique. Voilà, alors maintenant le lien avec la résilience que j'aimerais faire. Avec le trauma, la résilience, eh bien, je vais reprendre ces trois niveaux: le niveau personnel, le niveau interpersonnel et le niveau institutionnel. Donc, sur le plan personnel, très vite, l'idée, c'est effectivement, c'est la question du sens. Sur le plan interpersonnel, c'est la question, je dirais, du lien. Et avec cette phrase qu'on cite souvent, qu'on dit souvent. On n'est pas résilient tout seul, ça se construit dans l'interaction, dans la relation. Et puis, troisième point, sur le niveau institutionnel, là je parlerai plutôt du thème de la bientraitance institutionnelle. Alors, sur le plan perso, donc la question du sens. Alors, quel que soit le type de traumatisme subi, eh bien, se pose la question du sens. Ça se pose avec cette question toute simple, toute bête: pourquoi? Pourquoi ce genre de drame arrive et pourquoi ça m'arrive à moi? Tant que ça arrive aux autres, à la limite, c'est une question statistique. Des morts, enfin des accidentés graves par accident de la route, c'est une réalité statistique, les assurances connaissent ça. Si ça m'arrive à moi, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et ça, c'est pour toutes sortes de drames humains, on a constaté cette question qui surgit. On s'est rendu compte que lorsqu'une personne arrive à donner une réponse plus ou moins, enfin, plus ou moins objective à cette question du pourquoi, eh bien, ça les aide à vivre. Le problème, c'est que dans beaucoup de cas, ils n'en trouvent pas. Et on peut le comprendre. Il y a des situations, des drames humains que l'on peut qualifier d'étymologiquement insensés, dépourvus de sens. C'est totalement insensé. Et j'ai envie de dire, essayer de trouver du sens à une situation insensée, ben ça n'a pas de sens. Voilà. Eh oui. Donc, je comprends très bien, prenons l'exemple qui est peut-être un des plus caractéristiques, mais ce n'est pas le seul, d'une jeune fille qui subit l'inceste. Eh bien, essayer de trouver du sens à cela, on risque de le chercher longtemps et de se trouver devant un mur. Et d'ailleurs, c'est important parce que des fois, on dit, le temps, allège les souffrances. Vous qui êtes dans la psychothérapie, vous savez que c'est parfois vrai et que c'est parfois pas vrai du tout. En fait, c'est que au début à la suite d'un traumatisme, si on se pose la question du pourquoi, on a l'espoir de trouver la réponse un jour. Donc, bon, mais si ça fait 20 ans, 30 ans qu'on se pose la question et qu'on est toujours devant un mur, eh ben on va moins bien que 20 ans avant. Donc, c'est pas le temps qui allège les souffrances, c'est le travail qui peut être fait éventuellement qui peut les alléger. Alors, à partir du moment où il est difficile, voire impossible, de trouver du sens, est-ce que la porte de la résilience, de la reconstruction est fermée? Eh bien non, heureusement, notre psychisme est fait de telle manière qu'il trouve parfois des solutions de traverse. Et j'ai envie de dire que même là où il n'y a pas de sens, même là où on part d'une situation insensée, eh bien, on peut créer du sens. Je dis bien créer, c'est-à-dire à partir de rien, à partir du vide de sens, on peut créer du sens. Et vous voyez la différence? Le pourquoi, en un seul mot, c'est chercher du sens dans le passé, dans le traumatisme. La deuxième question, c'est le pourquoi créer du sens pour le futur. Alors que que je m'exprime pas trop mal, quand je dis pourquoi, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que c'est bien de souffrir, si on peut en tirer des conclusions, si on peut en s'enrichir de quelque chose. Oui, il m'est arrivé ça, c'était pour ceci. Non, je ne suis pas du tout dans cette dynamique. Je dis simplement que, une fois que le drame est là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'effondre ou est-ce qu'on essaye à partir, enfin, ceci étant posé, de se reconstruire, de reconstruire quelque chose? C'est pour ça que la question qui m'a été posée par Michel Vigneault, le trauma peut-il donner du sens à la vie? Non. Non. Je reprends une phrase du philosophe contemporain Bertrand Vergely dans un petit livre qui s'appelle La souffrance, et il dit, ce n'est pas la souffrance qui donne du sens à la vie, c'est la vie qui donne du sens à la souffrance. On n'est pas tout à fait dans le même registre, donc loin de moi d'avoir une vision doloriste, valorisante de la souffrance, avec des références philosophiques ou religieuses ou que sais-je, pas du tout. Mais une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le pourquoi, en vue de quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, autant la question pourquoi en un seul mot, elle est consciente, autant en général, le pourquoi, on s'en rend pas compte, mais c'est les années qui vont passer, et on va se rendre compte qu'au fil des ans, on a donné une réponse à cela de diverses manières. Les diverses manières, j'ai envie de dire, elles sont soit pour qui, c'est-à-dire pour les autres, ou pour soi-même. Et je dirais, quand c'est pour les autres, j'appellerais ça des attitudes hétérocentrées. Lorsque c'est pour soi-même, des attitudes autocentrées. Mais que les choses, là aussi, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous, quand je dis autocentré, je ne dis pas égocentrique. Il n'y a pas de dévalorisation morale de ce type d'attitude. Bien sûr qu'il est bon aussi de faire des choses pour soi et pour autrui également. Et d'ailleurs, souvent, les deux fonctionnent en même temps. Alors, je ne vais pas tout aborder les différentes facettes de ces attitudes autocentrées et hétérocentrées, mais prenons deux attitudes autocentrées tout d'abord. La plus interne, la plus profonde, eh bien, ce qu'on observe dans un certain nombre de situations, pas tout le monde, hein, les chemins de la résilience sont très variés, et il n'y a pas de modèle de la résilience. Et une première façon, c'est la quête philosophique ou spirituelle. Beaucoup de gens, après une souffrance, je pense à par exemple des parents qui perdent leur enfant, voire leurs enfants, eh bien souvent il y a une quête spirituelle. Alors, c'est d'ailleurs divers parce que vous avez des gens qui n'avaient pas de croyances religieuses qui vont croire en Dieu, vous avez des gens qui croyaient en Dieu qui vont croire plus, avec par exemple des propos tels que Dieu nous a soutenus dans cette épreuve, et vous avez également des parents qui croyaient en Dieu et qui n'y croient plus, en disant si Dieu existait, il ne permettrait pas des choses pareilles. Et vous voyez, le problème que je disais du pourquoi tout à l'heure, c'est qu'ils savaient, ses parents, avant que des enfants meurent. Ils le savaient. Mais tant qu'on n'est pas touché dans son être profond, eh bien, à la limite, ce n'est pas si choquant que ça, et Dieu peut le permettre. Mais si ça me touche moi, eh bien, comment ça se fait que Dieu peut permettre des choses comme ça? Je tiens à préciser que mes propos ne sont en aucune sorte un jugement sur ces personnes. Mais précisément, au contraire, je dirais que face à cela, comment peut-on en tant qu'personne accompagnant, soit à titre professionnel ou non, eh bien, des personnes qui vont, par exemple, avoir une orientation spirituelle. Et j'ai parfois entendu une psychothérapeute dans un colloque où on participait l'un à côté de l'autre en disant à des parents, c'était des parents qui avaient, c'était une rencontre autour du suicide des adolescents. Donc on était devant des parents qui avaient eu des enfants qui avaient fait une tentative et parfois qui avaient abouti. Et cette personne a dit, mais vous savez, c'est très important de ne pas tomber dans des illusions, et je pense en particulier aux illusions religieuses. Et moi, j'étais à côté et j'ai dit, jusqu'à présent, vraiment, on était vraiment tout à fait d'accord, vraiment, mais là, je ne peux pas vous suivre. Parce que si une personne me dit, c'est Dieu nous a aidés dans cette épreuve, eh bien, ce que je pense, moi, de l'existence de Dieu ou de pas Dieu, n'a pas d'importance. Ce qui est important, notre vérité du moment, c'est que Dieu les a soutenus dans cette épreuve. Évidemment, je renverse la proposition. Si j'ai devant moi quelqu'un qui me dit, moi, ce qui m'a aidé à me reconstruire, c'est le militantisme athée, le syndicalisme, je suis rentré au PC ou que sais-je encore, j'ai pas, moi, si je suis croyant, à lui dire, mais avec Jésus, Bouddha, vous irez mieux. J'ai à l'accompagner, et la vérité entre nous, c'est sa vérité qui est la vérité du moment. Je crois que c'est très important. La résilience, c'est une immense école du respect d'autrui, de l'humilité, de l'empathie. Autre élément, dont je viens de vous donner un premier élément de auto-centré, autre élément, c'est l'enrichissement de la personnalité. Et oui, ça peut paraître très surprenant, paradoxal, voire parfois choquant, eh bien, des histoires de parcours, de reconstruction psychologique nous montrent que des gens disent, eh bien, j'ai découvert des facettes, des choses en moi que j'aurais positives que j'aurais jamais imaginées, des forces. Je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais là, je crois que je vais avancer. Alors, un autre élément et qui rejoint d'ailleurs celui que je viens de dire, eh bien, attitude hétérocentrée, tournée vers les autres, l'altruisme. Et je dis bien, ça vient souvent en parallèle. Donc, ce n'est pas une question de dire plus on est auto-centré, moins on est hétérocentré, vice-versa. Pas du tout, ça fonctionne souvent ensemble. Donc, il n'y a pas à mettre une échelle de valeur ou quoi que ce soit. Beaucoup de personnes qui vivent un drame, eh bien, vont se tourner plus vers les autres. D'abord, il y a une sorte d'auto-centration, ce qui est normal, mais après, se tourner vers les autres. Vous savez, beaucoup d'associations humanitaires, caritatives, eh bien, ont été fondées par des personnes qui ont souffert dans leur vie, dans leur chair, avec leurs proches, enfin, que les proches ont souffert directement du drame qui est à l'origine de cette association. Et alors, je voudrais reprendre et mettre en cause, en quelque sorte, enfin, mettre en débat au moins une phrase que j'entends parfois dire, de toute manière, pour aider les autres, il faut d'abord être bien soi-même. Il faut d'abord aller bien. Alors, moi, je dirais une chose différente. Je dirais, pour aider les autres, il ne faut sûrement pas les aider si on est très mal. Ça, c'est sûr. Ça, je suis d'accord, parce qu'autrement, bon, vous connaissez le terme réparation. En gros, on va se servir des autres comme thérapeute de nos propres problèmes. D'accord. Mais en revanche, si je ne partage pas l'idée qu'il faille forcément aller très bien, parce que s'il faut attendre d'aller très très bien pour aider les autres, on risque d'attendre longtemps. Vous voyez ? Et on risque de ne pas être très nombreux non plus, vous voyez ? Et oui, non, faut quand même être un peu réaliste. Je vous prends un exemple, parce que il y a une association qui s'appelle Jonathan Bière Vivante, une association que je trouve tout à fait remarquable, qui a été créée il y a peut-être 30 ans ou plus par un couple qui avait perdu leur fils. Ils ont créé cette association et c'est une association qui fait énormément de bien, et les gens se voient, mais ils ne sont pas là pour entretenir leur malheur. Au contraire, ils s'encouragent très bien. Eh bien, au moment où ils ont créé l'association, ils n'étaient pas très, 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 très bien. voyez, ils n'ont pas attendu très très bien, attendu d'être très bien pour lancer l'association. Et je suppose que vous, vous êtes tous très très bien puisque vous êtes thérapeute, mais bon, alors réfléchissez quand même à cette phrase. Voilà. Moi, personnellement, je préfère l'idée que en allant vers les autres, en me tournant vers les autres, en nous tournant vers les autres, nous découvrirons le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Alors, bien sûr que ça peut être une causalité, une sorte de spirale vertueuse, une causalité circulaire. C'est, en allant bien, je peux me tourner d'autant plus efficacement vers les autres, et plus je me tourne vers les autres, mieux je vais. Mais n'attendons quand même pas la fin du monde pour commencer à nous intéresser aux autres. Vous savez, il y avait quelques années, dans le métro parisien, il y avait une petite affichette qui était écrite, c'était la RATP qui mettait ça, et qui écrivait: Vous êtes déprimé ou enfin, vous êtes déprimé ou triste ce matin, donnez votre place assise à une femme enceinte ou à une personne âgée, vous verrez, ça ira tout de suite mieux. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'être traumatisé pour adopter ce principe. Alors, je continue maintenant. Ça, c'était le premier point, c'était le point personnel. Le point interpersonnel maintenant, c'est donc ce que j'appelle le lien. On n'est pas résilient tout seul. Et là, puisque j'ai fait ma thèse de psychologie sur les enfants maltraités devenus des parents affectueux. Alors, je rassure tout de suite, parce qu'il y en a qui se posent la question dans la salle, pourquoi il a fait ça? Non, je n'ai pas fait ça du tout par hasard. C'est parfaitement mon histoire personnelle m'y a conduit directement. Voilà, donc vous êtes tout de suite rassurés. Mais je vais bien, hein, ça va. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ces personnes, quand j'ai rencontré donc des personnes adultes qui me parlent de l'histoire d'enfance, eh bien, ils ne m'ont pas dit des choses. Alors, je leur demande qu'est-ce qui vous a aidé à vous reconstruire. C'est vrai que je n'ai pas eu des phrases, je dois le reconnaître, du style j'ai bénéficié de la neutralité bienveillante ou de la bonne distance professionnelle de tel éducateur ou tel thérapeute. C'est vrai que je n'ai pas eu ça, je dois le reconnaître. En revanche, j'ai eu des phrases où on m'a dit je me suis senti, pour la première fois de ma vie, je me suis senti aimé. Ouais, ça, j'en ai eu plusieurs fois des phrases comme ça. Et ça, peut-être, devrait nous faire réfléchir. C'est que pour moi, la première source de résilience au niveau facteur interpersonnel, eh bien, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est la gentillesse, c'est la sensibilité. Et parfois, ça peut même s'appeler l'amour. Vous savez, vous connaissez peut-être Alexandre Jolien. Le philosophe, jeune philosophe, qui est né avec le cordon ombilical autour du cou, ce qui a fait que il a des désordres moteurs importants. Quand il parle, on a du mal à le comprendre. Il maîtrise mal ses gestes. Eh bien, il a grandi en raison de ce handicap. Il a été psychologue, lui ont fait passer des tests d'intelligence et il a été considéré comme handicapé mental. Il a passé, je crois, 17 ans dans des institutions. Et puis maintenant, c'est un philosophe qui est célèbre, très célèbre dans le monde francophone, voire plus largement encore. Et voici ce que dit Alexandre Jolien de ses expériences passées dans des institutions. Alors, beaucoup d'éducateurs insistent excessivement sur la nécessité de mettre de la distance entre le patient et l'éducateur. Cette recommandation anodine suscite beaucoup de souffrances gratuites. Cette distance nous éloignait des éducateurs. Comment confier ce qui touche, ce qui est intime à une personne qui affiche une telle distance? Avec ce genre d'éducateur, nous n'abordions jamais les vrais problèmes. Ces personnes représentaient à mes yeux des techniciens, des spécialistes, alors que j'avais précisément besoin d'une écoute amicale, d'une proximité bienfaisante qui stimula une recherche commune de solutions. Cette distance a finalement creusé entre éducateurs et pensionnaires un gouffre infranchissable. La distance, il est vrai, peut aider le soignant à conserver sa sphère privée, à ne pas se laisser miner par les problèmes du patient. Et ailleurs, ça il le dit dans son premier ouvrage, et dans une interview à la télé suisse romande, il dit: Ce dont j'ai le plus souffert, c'est de la distance professionnelle. Alors, je ne suis pas là non plus en train de dire, Viron, mettons à la poubelle la bonne distance professionnelle. Je dis qu'il faut associer la bonne proximité humaine et la bonne distance professionnelle. Et être lucide sur comment dire, la fonction respective de l'une et de l'autre. Tous les travaux montrent que ce qui facilite la résilience, ce n'est pas la distance, c'est la proximité humaine. La bonne proximité humaine facilite la résilience. Mais, il faut là avoir la fonction spécifique et utile de la bonne distance professionnelle. Si on veut être lucide, la bonne distance professionnelle est essentiellement utile pour le professionnel, pour l'accompagnant. C'est-à-dire que ça évite en quelque sorte l'envahissement en termes de temps, en termes d'espace, en termes d'énergie et tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, Alexandre Jolien nous dit « La distance peut aider le soignant à conserver sa sphère privée, à ne pas se laisser miner par les problèmes du patient. » Donc les deux sont nécessaires, mais ne nous leurrons pas sur la fonction spécifique de l'une et de l'autre. Évidemment, il faut encore nuancer, parce que ce n'est pas du 100% du zéro, c'est-à-dire que 100% de la proximité humaine sert à la résilience, 0% aux accompagnants et vice-versa. Bien sûr qu'une partie de la distance sert aussi aux personnes accompagnées et une partie de la proximité nous sert à nous, bien entendu, j'en suis conscient, mais j'ai bien dit la principale fonction. Voilà. À quelle heure je termine du coup? Parce que j'ai regardé à quelle heure je commençais, mais je m'en souviens plus. Pardon ? À moins de quart, c'est-à-dire que c'est dans un quart d'heure. Donc il me reste une minute pour conclure. Alors, ça va être rapide. Le niveau institutionnel. Le niveau institutionnel, moi, j'ai fait des formations auprès de professionnels de l'enfance et j'ai vu des gens qui, des assistantes sociales, des éducateurs, tout ça, ils étaient pleins de bonne volonté, pleins d'empathie. Et en même temps, je sentais qu'il y avait une sorte de chape de plomb qui leur empêchait de faciliter cette résilience. Donc, le côté institutionnel, la direction, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est important. Je voudrais simplement signaler une expérience, par exemple, qui m'a été racontée par un ami qui est directeur général de la DSA de Seine-et-Marne. Il s'appelait Jean-Michel Tavant. Je dis son nom, vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un, pour moi, très riche humainement. Et il est arrivé, il est devenu directeur d'un foyer pour jeunes filles qui avaient subi des violences diverses et variées que vous pouvez imaginer. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il s'est dit, ces jeunes filles, elles ont besoin de beauté. Elles ont besoin. Et une des premières choses qu'il a fait faire, et ça a coûté de l'argent, ça a été parfois un peu mal compris, mais après tout le monde a compris le sens, eh bien, il y avait des douches collectives, il a fait casser les douches collectives, il a fait des douches individuelles dans les chambres. Et tout simplement parce que ces personnes, ces jeunes filles dont le corps n'avait pas été respecté, eh bien, elles, là, et en plus des belles douches, pas seulement de la vieille céramique pourrie blanche, des belles douches, et c'était une marque de respect de leur intimité, leur redonner leur dignité. Pour moi, c'est important. Et vous voyez bien que ça va au-delà de l'attitude interpersonnelle d'un éducateur, d'un psychothérapeute. C'est un choix institutionnel. Je crois que c'est très important. Et je terminerai par une autre petite histoire, parce que parfois aussi, l'institution est cadrante et c'est nécessaire. Je suis un des premiers à dire que les personnes qu'on accompagne, que ce soit en psychothérapie, que ce soit dans le travail social, il y a du lien, il faut du lien et il faut aussi du cadre. Mais parfois, il faut aussi avoir le courage de sortir du cadre. Et j'aimerais terminer par une petite histoire que j'aime beaucoup, qui m'a été racontée un jour par une jeune éducatrice de CHRS, vous savez, les centres d'hébergement de réinsertion sociale qui accueillent des personnes sans domicile. Et elle, comment dire, il y avait dans ce centre, il note les dates d'arrivée des personnes, et comme il reste souvent plusieurs mois, eh bien, le jour de leur anniversaire, ils fêtent leur anniversaire. Et du coup, un soir, elle était la référente d'un monsieur qui devait avoir 50, 60 ans, et au repas du soir, elle arrive et elle a un gâteau avec des bougies dans la main, et elle arrive et tout le monde se met à chanter parce qu'ils sont plusieurs éducs avec elle et tout le monde « Joyeux anniversaire Raymond !» Voilà. Et après, elle lui donne un cadeau. Et le gars, il est ému jusqu'aux larmes. Et un petit moment après, il va la voir. Il dit « Vous savez, je ne savais pas que c'était aujourd'hui mon anniversaire. Ça fait 35 ans qu'on ne me l'a pas fêté. » Voilà. Et alors, il va se passer autre chose. Deux, trois jours après, il la croise dans un couloir. Il lui dit, près de sa chambre, et lui dit, j'aimerais vous montrer quelque chose. Et elle le suit dans sa chambre. Et il va sortir quelque chose qui est caché derrière son lit. Et ce quelque chose, c'est une bouteille de champagne. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ce monsieur était en cure de désintoxication alcoolique au sein du CHRS. Elle lui dit, voilà, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait l'autre jour pour moi. » Et il lui donne la bouteille de champagne. Et cette jeune fille dit, « Mais vous savez que normalement, je n'ai pas le droit de recevoir de cadeaux de la part des résidents. » « Oui, je le sais. » « Mais vous savez que normalement, vous n'avez pas le droit de rentrer d'alcool dans l'établissement. » « Oui, je le sais. » Elle dit, « Alors, je vous remercie. » Et elle prend la bouteille. Et elle m'a demandé, « Mais est-ce que j'ai bien fait ?» Elle a enfreint deux règles institutionnelles qui sont cadrantes et qui sont protectrices. On est d'accord. Et je lui ai dit, bah, « Écoutez, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez fait le contraire ?» Il était en cure de Zézinto, je peux vous dire que il repartait. Ça n'aurait pas fini dans les toilettes, hein, la bouteille de champagne. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que parfois... il est nécessaire de poser le cadre, comme on dit, vous connaissez cette expression, et parfois il est nécessaire, au nom de l'empathie, au nom de la sensibilité à l'autre, de l'adaptation au moment, il est parfois nécessaire aussi de savoir sortir du cadre. Merci beaucoup.
Merci. C'était Vaz David qui disait qu'il fallait sortir du cadre et pour y revenir, pour être créatif. Sortir du cadre, y revenir pour être créatif. Bon voilà, c'est ce qu'on a fait. On est un peu sorti du cadre, mais on y revient. Donc, on a un petit temps de questions du cadre, enfin au niveau du timing, je veux dire. Hein. Mais on y revient, on va s'arrêter dans les temps. On a un quart d'heure pour des questions et on conclura après. Est-ce qu'il y a des questions ?
Ce qui me frappe dans la jeunesse de la psychologie positive, c'est son lien avec les perspectives de la pensée de Frankel. L'idée qu'on a, avec la pensée de Frankel, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision psychopathologique de l'être humain, mais une vision développementale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la façon dont, dans cette optique, les notions principales sont articulées, notamment à une réflexion sur l'institution. Et alors, est-ce que vous pouvez en dire plus sur cet aspect-là ? Comment, à quel moment la psychologie développementale a eu prise sur la dimension institutionnelle ? Parce qu'on connaît mieux la dimension individuelle et interpersonnelle, mais la dimension proprement institutionnelle, c'est quelque chose d'assez peu connu.
Oui, alors en fait, comment dire ? Je pense justement qu'il peut y avoir des limites à la capacité d'aide, d'accompagnement de personnes si l'institution elle-même, elle n'est pas bien traitante, voire elle est maltraitante. Mais je vous donne des situations, il y en a un certain nombre. Mais... Moi, il y a quelque chose, par exemple, qui me trouble, c'est que parfois, on croit qu'avec des règles, on va régler des problèmes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi du 2 janvier 2002, qui, dans les établissements à caractère social, médico-social, vous impose un certain nombre de choses. Et notamment, le livret d'accueil. Certains connaissent peut-être. Le livret d'accueil, c'est-à-dire, on vous dit comment ça se passe dans l'institution. Je connais des associations, des structures, qui ont un parfait livret d'accueil et qui sont pas bien traitantes du tout. Et vous avez des associations qui vont faire un livret d'accueil qui est pourri, qui ressemble à rien, et qui sont bien traitantes. Et je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que... Parce qu'aujourd'hui, avec le mot bien-traitance, il y a tout un côté législatif, normatif qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, je dis que c'est nécessaire, c'est utile, ces choses-là. Mais il ne faut pas croire que le normatif va remplacer la bien-traitance. Et je crois que ça, pour moi, c'est très important. Maintenant... la bien-traitance, la maltraitance, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que dans des structures, dans des institutions, on pense bien-traitance, maltraitance des personnes accueillies. C'est un mot qu'on utilise beaucoup pour les personnes âgées. Hein. Mais ça joue d'abord et avant tout pour les professionnels. Les professionnels. Et ne nous leurrons pas non plus. C'est-à-dire que quand on parle de maltraitance institutionnelle, très souvent, c'est des professionnels du terrain qui pensent, qui disent que la direction, la structure les maltraite. Mais c'est parfois vrai, et c'est souvent C'est souvent la réalité de la maltraitance institutionnelle liée aux professionnels. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Vous avez des éducateurs de terrain ou quoi qui peuvent maltraiter leur chef de service. Vous savez, c'est une position très difficile, par exemple, d'être chef de service. Ou bien, comme j'ai pu l'entendre dans certaines structures, le directeur qui me dit ou la directrice qui me dit, vous savez, ils ne se font pas de cadeaux entre eux. Voilà. Donc je crois que la bientraitance, c'est vraiment quelque chose qui est au service des personnes accueillies, mais déjà une première forme de bientraitance, c'est déjà la bientraitance entre les professionnels. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non. Voilà. Mais c'était intéressant.
Oui.
Oui.
Oui, Jacques,
Ah,
est-ce que tu peux nous dire si la psychologie positive a donné lieu à une ou des démarches thérapeutiques spécifiques, est-ce que tu peux les évoquer?
Oui, alors ben, là en tout cas, puisque vous avez avant eu M. Sarfati qui vous a parlé, je dirais pas que c'est une création de la psychologie positive, mais par exemple la logothérapie pour moi rentre pleinement dans le domaine de la psychologie positive, alors qu'elle est bien antérieure avant le terme psychologie positive. Au niveau psychothérapeutique, il y a des thérapies d'ailleurs fondées sur le sens qui suivent, qui reprennent plus ou moins des données comment dire, de Frankl. Il y a aussi tout un courant qui est issu des psychothérapies cognitivo-comportementales. Bon, voilà. Alors maintenant, ça, c'est des choses qui existaient avant. Mais vous avez, par exemple, effectivement, ce dont on parle énormément aujourd'hui, la mindfulness, hein, la thérapie par la pleine conscience. Voilà. Ça, c'est nouveau et c'est vraiment typiquement, j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais un produit en quelque sorte de la psychologie positive. Mais il y a quelque chose, par exemple, qui est beaucoup moins connu dans le même ordre d'idée de méditation. Autant la méditation pleine conscience se répand de plus en plus, il y a quelque chose qui s'appelle la méditation bonté ou gentillesse, la kindness meditation. Et en fait, c'est le fait de pouvoir imaginer, vous pensez à des personnes et vous imaginez le meilleur pour ces personnes. Alors, il y a tout, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a toute une sorte de méthodologie. On pense d'abord à des personnes qu'on aime beaucoup, après un peu moins. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a amélioré énormément nos relations interpersonnelles, notre vision du monde, notre vision des autres et aussi notre regard sur nous-mêmes. Ça a des effets, par exemple, sur la dépression. C'est beaucoup moins connu que la mindfulness, mais c'est au moins aussi efficace. Ça, c'est par exemple des éléments typiquement produits par la psychologie positive. Vous avez aussi là les travaux de Seligman sur l'optimisme. Vous avez une pratique, des fois on en rigole, mais ça marche. C'est tout simplement de dire, à la fin de la journée, j'essaye de me souvenir, et même, enfin, j'essaye de me souvenir de trois éléments positifs, très positifs de la journée. Et en fait, lorsque c'est à faire avec des dépressifs, par exemple, eh bien, les dépressifs, des fois, ils vous disent, de toute manière, je vis rien de sympa dans la journée. Mais essayez quand même. Et en fait, on sait que les dépressifs, non seulement ils ont du mal à repérer les moments positifs, mais ils ont aussi du mal à les remémorer, à les garder en mémoire. Et donc, on leur dit, mais si un moment ça vous arrive quand même, notez-le. Et à la fin de la journée, ils se rendent compte qu'ils en ont noté 5. Alors que d'habitude, ils sont convaincus qu'il n'y en a pas. Et s'ils sont attentifs, et s'ils les mettent sur un papier, et qu'ils y pensent, par exemple, le soir, eh bien, ils dorment beaucoup mieux. Moi, je peux vous dire que j'ai fait ça avec une jeune femme, par exemple, elle m'a dit, pour la première fois, j'ai bien dormi depuis des années, simplement parce qu'elle avait noté des trucs positifs de la journée. Voilà. Et elle ne les repérait pas. Voilà. C'est aussi bête que ça. Alors, il y en a qui rigolent de ça, qui disent, ouais, bisounours, machin, et tout. Bah oui, mais ça marche.
Merci Jacques. Encore une question?
Oui, bonjour. Enfin, nous avons tous écouté tout à l'heure Charles Rosman.
Oui.
Et j'ai eu à ce moment-là, bien sûr, j'ai pensé à ce qu'on appelle la CNV de Marshall Rosenberg, parce que
Oui.
forcément, cette façon de parler à l'autre en parlant de soi. Et là, donc, j'ai envie de vous demander, est-ce que la CNV n'est pas, je dirais, une fille de la psychologie positive, ou est-ce qu'il n'y a pas du cousinage, enfin quelque chose? Parce que Enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est un peu dans la même famille, là.
Oui, alors en fait, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de cousins, de frères, peut-être il y a des familles recomposées, si vous voulez, je pense, dans tout cet univers. Hein. mais par exemple, vous parlez de la CNV, mais par exemple, c'est évident que pour moi, la psychologie positive est une fille directe ou une fille à l'utérine, comme vous voulez, enfin en tout cas, mais de la psychologie humaniste, Rogers, Maslow et compagnie. Et Seligman, enfin les fondateurs de la psychologie positive ont eu du mal à le reconnaître. Hein, ils ont mis du temps à dire oui, finalement c'est proche de. Mais nous on est plus scientifiques. Bon, passons. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr que quelque chose comme par exemple la CNV est très proche de la psychologie positive. En revanche, et ça n'est pas du tout un jugement que je porte, j'ai cherché quand même dans des bases de données, j'ai pas vraiment trouvé d'études d'évaluation des effets de la CNV. Moi, je personnellement, à titre personnel, je pense que c'est efficace. Mais pour en être sûr, il faudrait faire des études d'évaluation, vous voyez, avec des groupes contrôles. Et ça n'a pas été fait. Donc, je veux dire que, voilà. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de liens, par exemple, aux États-Unis, entre les fondateurs de la psychologie positive et et Marshall Rosenberg ou d'autres défenseurs de la CNV. Mais bien sûr, pour moi, il y a une grande proximité d'esprit. C'est très clair.
Une dernière intervention.
Courte, c'est simplement pour annoncer que cette semaine, je crois, en kiosque, le journal La Croix sort à partir de cette semaine un journal d'information uniquement positive.
Ah, ben merci. Alors, ça me permet, merci beaucoup, c'est pas une question, mais c'est une information et j'achèterai La Croix. Et je voudrais, alors ça me permet quand même de conclure sur quelque chose, à mes yeux, d'important. Vous savez, on dit des fois, les journalistes, vous disent, j'ai été longtemps journaliste, j'ai travaillé à Sciences Humaines, que vous devez connaître, je pense. Et les journalistes, quand moi je leur dis, mais pourquoi vous mettez que du négatif ils me disent, oui, mais de toute manière, on répond à la demande, on fait ce qui se vend. Ça, c'est totalement faux. Je vous donne simplement un petit truc pour le vérifier. Vous allez sur Internet, Wikipédia, vous tapez box office, c'est les films qui font les plus gros cartons. Eh bien, qu'est-ce qui fait le plus d'entrée, c'est lorsque vous avez de l'humain ou de l'humour. Alors ça donne quoi? Ça donne Bienvenue chez les Ch'tis, ça vous donne Les Intouchables, ça donne Amélie Poulain et tout ça. Et quand vous avez les deux, de l'humour et de l'humain, eh bien vous cartonnez, vous faites Les Intouchables, effectivement. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, Libération, Jean-Claude Guibaud, un journaliste assez connu, eh bien a proposé un jour à Libération de faire un Libé des bonnes nouvelles. Waf, Libé des bonnes nouvelles, vous rigolez, on ne fera jamais ça. Bon, et puis de toute manière, ça ne se vendra pas. Et ça, vous pouvez le trouver, je crois que vous tapez direct, vous tombez dessus, vous tapez Libé des bonnes nouvelles sur Google, vous le trouvez. Eh bien, qu'est-ce que ça a donné? Ils l'ont fait. Et ça a été la meilleure vente de l'année. Ils ont fait 23% de plus que la moyenne de l'année. Alors évidemment, oui, mais ceux qui se disaient waf waf, eh bien qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, mais c'est parce qu'on a fait un numéro. Et si on faisait tous les numéros pareils, bien sûr. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire tous les jours des numéros des bonnes nouvelles, mais une nouvelle, un truc sur la Syrie, un truc sur, par exemple, vous n'entendez plus parler de la guerre civile en Irlande. Eh bien, comment les Irlandais, ils vivent, les protestants et les catholiques, ils vivent. Un truc sur un crime et un truc sur quelqu'un qui devient sauvé de quelqu'un des flammes. Et ça serait beaucoup mieux. Et si, tant que ce n'est pas ça, si je peux vous donner un conseil, eh bien, c'est que le soir à 20h, vous sortez de chez vous, vous ne regardez pas tant qu'on ne vous fait pas ce type d'information, et vous allez dans une association humanitaire, les Restos du Cœur, et ça sera beaucoup mieux. Vous verrez plein de gens passionnants.
Ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est formidable de conclure sur cette note positive qui ouvre sur un avenir de l'humanité meilleur que celui que l'on voit tous les jours à la télévision. Oui, ça c'est sûr. Merci vraiment de votre intervention dynamisante. Et puis nous allons conclure, parce que tout le monde est je pense, bien nourri, bien rempli, et peut-être un peu fatigué de ces deux jours. Avant que tout le monde ne se sauve, deux informations pratiques. L'une, pouvez-vous remettre vos badges à l'entrée, s'il vous plaît? Deuxième, il y a une assemblée générale demain, dans un autre lieu que celui dans lequel nous le faisions jusqu'à maintenant. C'est au FIAP, le centre Jean Monnet, rue Cabanis, en face Sainte-Anne, à 9h30, demain, au FIAP. Voilà, ça c'était pour les détails pratiques. notre président alors, va conclure et moi je donnerai quelques informations.
Je ne sais pas si je vais réussir à conclure, mais j'avais envie de conclure sur le thème parlons de nous, voulez-vous ? Parce qu'on a beaucoup parlé des autres, on a beaucoup pensé aux autres, on va essayer de parler un petit peu de nous. Je trouve que ce colloque a organisé Michel Vineau, et je pense qu'on va l'applaudir beaucoup, 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 beaucoup. Mais elle ne l'a pas fait toute seule, parce qu'il y a Odile, comme Vialat, qui est là derrière. Et puis, Valérie Dutin, qui est partie aussi.
Oui, il y a tous ceux
et
qu'on puis, ne voit pas.
Et il y a aussi toute l'équipe de jeunes étudiants, là, je ne sais pas s'ils veulent
Odile
venir.
Odile a organisé une maintenant. Équipe d'étudiants de l'université de psycho de Amiens.
Voilà, c'est les psychos de Amiens.
Qui étaient les petites fourmis pendant ces deux jours. Odile a assuré toute la technique. Et voilà, il faut vraiment beaucoup de confiance pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Et il y avait une grande confiance entre nous. Et c'est ce qui a favorisé la créativité.
Ouais. Et une organisation remarquable, vraiment. Alors, parlons de nous, voulez-vous. Je me disais que ce colloque, il avait peut-être, il avait comme projet de parler du trauma et de la question du sens. Et je trouve qu'on avait besoin d'avoir une représentation commune de ce problème complexe du trauma. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a réussi à avoir beaucoup d'éléments, enfin depuis ces deux jours, qui permettent non pas de savoir si on est d'accord ou en désaccord, mais je trouve qu'on a eu beaucoup d'outils pour avoir des représentations communes. Il y a eu beaucoup de mots qui sont passés pendant ces deux jours, des termes, des concepts, des idées, et je trouve que c'est extrêmement important parce qu'on repart sûrement nourri de beaucoup de choses, et je remercie tous les intervenants qui ont été tous brillants, intéressants, et je ne pourrais pas tous les citer, bien, et je ne les citerai pas tous, parce qu'ils ont été vraiment, je crois, largement écoutés. J'ai été frappé par la qualité de l'écoute et de votre écoute, et je trouve que c'était très intéressant. Donc ces mots, j'ai retenu un certain nombre de choses, c'est que je pense qu'avec ça, on a possiblement affiné notre clinique du trauma. Je disais en début de colloque qu'on avait, que le trauma était un objet d'étude maintenant, à part entière. Je pense qu'en partant, vous avez l'idée qu'on a vraiment un objet qui touche, qui va de la du neurone, de la transmission synaptique, jusqu'à la question du sens, en passant par les sociétés. Et je trouve qu'on a posé les questions d'une façon intelligente. Et vraiment, encore merci. J'avais deux différentes remarques. La première remarque, c'est que j'ai été frappé par quelque chose, c'est que vous avez vu à quel point on a besoin d'images. C'est-à-dire que toutes les représentations sur les méthodes, sur les techniques, c'était des images qui nous ont parlé beaucoup. Et quand on abordait les concepts, c'est un petit peu difficile. Et là, je voudrais rapporter un stade de développement de l'enfant. Vous savez que l'enfant, il est d'abord imitatif. Et puis après, il y a le monde imaginatif qui apparaît créatif. Et puis après, on rentre dans le monde conceptuel. Alors, ne soyez pas des imitateurs, s'il vous plaît. Ne soyons pas des imitateurs, mais rentrons dans ce monde imaginatif pour créer et inventer des nouvelles approches. Et je crois qu'on nous en a montré certains aujourd'hui, comment certains arrivaient, par différentes approches, à inventer. Et Dieu sait s'il y a des choses à inventer. Je dirais que nous avons un danger en tant que psy, je crois, c'est... Alors, je vais dévier un petit peu un mot. On a parlé de dissociation structurelle. Je me demande si on n'est pas un petit peu en danger. De dissociation structurelle, pourquoi ? Parce que, vous savez qu'on a un grand danger ambivalent dans cette recherche effrénée de techniques, de méthodes, de moyens. Il y a un grand danger d'être très fragmenté. C'est-à-dire qu'on voit deux positions ambivalentes que je voudrais dénoncer et qui a bien été montré, notamment par le travail d'Edmond Marc, nous a engagé là-dedans et puis après on a vu le reste. La première tentative et le premier risque, c'est de vouloir mettre une théorie et on va tout bourrer pour que ça rentre dans la théorie. Et puis qu'on arrive et on ne va rien lâcher de ce côté-là. Et puis l'autre danger ambivalent, c'est effectivement de faire la course à la pierre philosophale de la méthode psychothérapique qui va nous permettre de tout guérir. Vous savez que ce n'est pas un danger qui est encore dans lequel on est loin. Et ce danger me paraît extrêmement compliqué parce que ça fait des personnes eh bien, une espèce de quête permanente. Je passe de méthode en méthode, je passe de chose en chose. Et je crois que ce n'est pas ça la dimension psychothérapique. Dans un premier temps, on a voulu faire, on a mis, et vous savez qu'on a fait beaucoup de dégâts avec ça, en voulant se servir des patients pour les faire rentrer dans une théorie au mépris, une instrumentalisation de l'autre. Et ce danger n'est pas encore terminé. Et sur le plan éthique, je pense qu'il faut faire très attention. Et puis l'autre danger, c'est cette course effrénée à toutes les méthodes, et je crois que là, il y a quelque chose que je voudrais dénoncer. En même temps, pour nous, qu'est-ce qu'on sort de là? Qu'est-ce qu'on retire de ça? Eh bien, je dirais qu'il y a quelque chose qui m'est apparu, c'est cette question de la posture, de la position du psychothérapeute, et celui qui m'a appris, je crois, quasiment tout mon métier, c'est un pédopsychiatre de Nancy, qui s'appelle Pierre Tridon, qui est décédé maintenant, et qui m'avait époustouflé, cet homme, qui n'était pas un grand théoricien, qui est un excellent clinicien, parce qu'à chaque fois qu'il voyait un enfant, que ce soit un bébé, un handicapé, un vieillard, un normal, il avait un regard et une posture telle que l'autre avait l'impression qu'il avait tout le temps devant lui et qu'il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Il y avait dans ce regard enveloppant et dans cette posture quelque chose qui suspendait le temps. Et cette dimension, quelle que soit la durée, ça pouvait durer une minute, deux minutes. Et vous savez bien que dans les temps psychothérapeutiques, quelquefois le temps est suspendu parce qu'on a donné le temps. Et là, c'est un travail compliqué sur soi qui est fait, mais je crois que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Une deuxième phrase que j'ai trouvée absolument fondamentale, « Je ne prétends pas connaître l'autre ». Quelqu'un l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire on l'a dit quand l'autre vient de très loin, mais quand l'autre est très proche aussi, je crois que c'est une dimension psychothérapique qui va dans le sentiment du design existentiel, c'est-à-dire comment être là pour devenir, la troisième idée ou la quatrième idée, un facilitateur finalement à la reconstruction de l'autre. Alors je trouve la question du sens, une autre idée qui me paraissait importante, c'est de savoir comment, quand, Georges Eliès a fait-il la poser, quand se pose la question du sens, et je crois qu'elle ne se pose pas à tous les moments, quand se pose-t-elle, et je me souviens de parents qui ont écrit un très beau livre qui s'appelle « Deux petits pas sur le sable », c'est des parents qui ont perdu, un ou deux enfants je crois, un est mort et l'autre d'une maladie grave, et ces deux parents qui sont venus témoigner à Montréal quand on faisait un congrès de soins palliatifs, ils ont commencé à dire cette chose. On a pu commencer à parler, à se reconstruire, quand on a arrêté de se poser la question du pourquoi. Tout le monde n'est pas capable de le faire, mais cette question du pourquoi, elle est vraiment importante. Quand se pose-t-elle? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de la question du sens, mais on peut peut-être faire l'économie de la question obsessionnelle de cette question-là, de ce pourquoi. Alors, nous pouvons peut-être donner un cadre possible à cette guérison. Et il y a un autre mot qui m'a, et je terminerai là-dessus, sur cette question de la flexibilité. On a parlé de la flexibilité neuronale, on a parlé de l'auto-guérison, et j'avais trois idées à vous proposer. La première m'a été soufflée par Michel Schittekat, qui est peut-être parti. Il est parti. Bon. Michel Schittekat, vous vous souvenez, il a fait une grimace en commençant son exposé. Et ça me rappelle un conseil que je donne aux psychothérapeutes quand ils commencent, de leur dire « faites le test du miroir ». Je ne sais pas si vous avez fait le test du miroir entre deux patients. Et bien, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Parce que vous verrez qu'entre un patient numéro 1, vous passez devant votre miroir et vous regardez votre tête et vous allez vers le patient numéro 2, numéro 1, numéro 2, le suivant, et bien vous allez voir que vous avez un état de figement, de quasiment figement traumatique, c'est-à-dire que votre visage va être porteur de tout ce qui a pu se passer l'autre. Faites le test, vous verrez, c'est un conseil que je donne aux psychothérapeutes, et Michel Schittekat m'a donné une explication physiopathologique très intéressante par rapport à cette dimension du figement. La deuxième idée, c'était la règle d'or, une règle d'or que j'aime bien dire par rapport aux psychothérapeutes. Vous savez, au fond, qu'est-ce qu'on nous a dit? On vous dit, pour être psychothérapeute, il faut savoir qui je suis. Il faut savoir ce que je fais et surtout ne pas le faire tout seul. C'est-à-dire qu'il faut partager avec les autres et on est là pour ça aujourd'hui parce que je crois que cette dimension de ce beau métier de psychothérapeute est difficile, complexe. Et pour terminer, je voudrais mettre une phrase un petit peu qui nous renvoie à une certaine humilité. Et c'est Ambroise Paré qui nous disait ça. Vous savez, Ambroise Paré, ce chirurgien du XVIe siècle, qui disait au fond, je l'ai pensé, on a parlé de pansement tout à l'heure, je l'ai pensé, Dieu l'a guéri. Alors, moi, je suis complètement contre cette phrase, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Nous, on a besoin de dire, je crois, je l'ai pensé, avec notre pensée, je l'ai pensé avec les pansements, et Dieu, qu'on soit croyant ou pas croyant, l'a guéri. C'est-à-dire qu'il y a une dimension quand même dans cette guérison qui est quelque chose d'assez, ou de cette, qui vient de la responsabilité de l'autre et qui vient de cette magie de l'échange avec l'autre. Et je crois que je voudrais terminer là-dessus, parce que je crois que ce colloque qui nous ouvre sur beaucoup de perspectives, et surtout je crois qu'on a eu la possibilité de parler de choses difficiles avec émotion, gravité, rire, et puis surtout beaucoup d'optimisme pour l'avenir. Je vous remercie d'être tous là avant que Michel Vinault dise encore deux, trois mots de conclusion. Merci à vous.
Merci Pierre. Et voilà. Merci Président. Donc, je vais me lever moi aussi, tiens. Par où je vais continuer? D'abord, moi je suis ravie qu'il y ait eu cette dynamique, malgré tous les défauts, les frustrations. Et j'ai entendu tous les... Trois. Bon. Alors, j'ai entendu... Je ne savais pas que les hommes étaient castrateurs comme ça. Bon, je continue. On n'a pourtant pas fait de théâtre, ni l'un ni l'autre, que je sache. Alors, je poursuis. Donc, je ne vais pas revenir sur le contenu du colloque. Simplement dire que j'ai essayé d'écouter vos requêtes, diverses et variées, pour l'année prochaine. Voilà, je vais ouvrir sur le futur directement. Donc, vous savez qu'on a envisagé de faire ce prochain événement qui ne va plus s'appeler colloque, mais congrès, à Avignon, au Palais des Papes, un lieu mythique, voire magique, même pour les non-croyants, paraît-il, et qui nous permettra de vivre un événement disons, dans lequel on voudrait réunir justement toutes les méthodes qui composent la fédération, et pas seulement, comme l'a rappelé Pierre, les nouveaux protocoles. On voudrait essayer de donner un sentiment de fédération. Merci, voilà. Je suis un peu fatiguée ce soir peut-être. En tout cas, un sentiment d'appartenance. Voilà, c'était le mot que je voulais employer. Et plusieurs sont venus me voir à la pause en me disant « Oui, la dimension psychosociale, c'est très important. » Je ne sais pas quel sera le thème l'année prochaine. On doit y réfléchir entre nous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la dimension collective, le sentiment d'appartenance, prendre en compte les traumatismes collectifs, dont un qui est celui de notre profession aujourd'hui pour ceux qui sont ni médecins, ni psychologues et qui n'ont pas été acceptés par une instance officielle qui s'appelle l'ARS, eh bien, ces gens-là sont traumatisés. Donc, je pense qu'il va falloir leur donner la place qui leur revient dans ce métier. Ils ne sont pas parfaits, ils sont comme tout le monde. Personne n'est parfait pour faire ce métier de la psychothérapie. Mais en tout cas, on va parler de ça. Et je crois qu'on fera le lien entre traumatisme et appartenance. Comment le collectif peut aussi nous guérir quand on se retrouve ensemble, face à face. Alors, la salle du conclave, je ne sais pas si vous la connaissez, mais... on est face à face, c'est-à-dire qu'il y a des tribunes comme ça, d'autres tribunes en face, et on est au centre pour parler. Et il paraît que ça favorise une certaine circularité des échanges. Donc je pense qu'elle aura du sens, et on peut être 600 dans cette salle. Donc on peut inviter les gens de la fédération et les autres pour faire ce qui me tient à cœur en tant que responsable de ce pôle recherche, colloque et publication, c'est de croiser les milieux, les milieux universitaires, les milieux scientifiques, les milieux des cliniciens, des praticiens. C'est très important de croiser nos points de vue, nos intelligences, nos postures, etc. Voilà. Donc,
oui.
L'année prochaine, tu es toujours d'accord, à Avignon.
Moi, je suis pour, voilà. Je suis d'accord. Maintenant, il va falloir construire.
Il va falloir construire, il va falloir mettre de l'énergie dans les écoles. Donc, faites passer les messages d'ores et déjà. Et la date. 29, 30 novembre, 1er décembre.
Je crois que tu m'as soufflé à l'oreille que tu avais un message personnel.
Oui.
Et alors, vous pouvez tous alors, partir, avant, il n'y a qu'une seule
message,
personne.
Avant le message personnel, on aura une, j'en profite quand même pour passer des messages pour ce congrès, on aura la possibilité d'avoir des ateliers qui répondront justement à certaines frustrations. On aura le temps d'écouter les intervenants, ce sera des petits groupes, il y aura des vidéos, puisque plusieurs personnes m'ont dit que les vidéos étaient très parlantes, très utiles, oui. Éventuellement des mises en situation. Donc, voilà, ça sera une autre configuration et des temps de rassemblement, soit en plénière, soit dans un lieu central d'accueil assez grand. Voilà.
Alors, ton message personnel, vous pouvez... Oui ? Faut prendre le
15
billet
euros pour aller de Marne-la-Vallée à Avignon ou Montpellier.
Prenez le billet ce soir, alors. Hein. Alors, vous partez tous, alors, c'est un message personnel.
Un message personnel. Hier soir, nous avions prévu de souffler 90 bougies. Il n'y avait qu'un seul problème, c'est que la personne qui devait les souffler n'était pas là. Mais il se trouve que par le plus grand des hasards, il est arrivé dans cette salle cet après-midi. Donc je voudrais lui rendre hommage. Il s'agit d'Armen. Lève-toi, je sais que tu n'aimes pas ça, mais on a voulu te prendre en traître. Mais tu peux tomber la veste. Pourquoi je veux lui rendre hommage ? Je vais le dire quand même. C'est pas seulement parce qu'il a 90 ans et toute sa tête et toutes ses jambes pour venir jusque-là, ce qui est formidable, mais il a contribué à la construction de la fédération et pendant de nombreuses années. Je ne sais pas quand est-ce que tu y es arrivé, à l'origine peut-être ? Depuis le début. Il a fait beaucoup de liens, il a justement apporté beaucoup les notions d'appartenance, de fédération, d'harmonie, je crois que c'est un concept cher à Paul Diel. Et donc c'est une figure de la fédération. Personnellement, il m'a beaucoup appris, parce que c'est avec lui que j'ai commencé à construire des colloques avec Michel Maignan, il y a 8 ans maintenant. C'est la première fois que j'en organise un peu plus sur le devant de la scène. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé réfléchir avec Armen, il a toujours apporté des idées très créatrices, très originales. Donc je tenais à le remercier d'être là, d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour nous. Et longue vie à toi encore. Et viens souvent nous faire partager ton expérience de sagesse.
Merci Armen, si je suis là, tu es le coupable. Armen donne sa démission demain
du conseil d'administration. Et je voulais qu'il vienne nous dire au revoir aussi. Tiens.
Au revoir après cette très bonne surprise. Je pense que si le psychisme a de l'influence sur le soma, je devrais pas, vous ne devriez pas fêter mes 90 ans, mais mes 20 ans. Voilà. Merci mille fois.
Oui, l'âme rajeunit, et c'était le sens des petits papillons. J'espère que vous avez tous remarqué que j'avais un foulard avec des papillons, je l'ai trouvé avant-hier, parce qu'il est, mais personne ne l'a vu, en harmonie avec le flyer. Et alors je voudrais raconter ce que Michel Benoît m'a dit à propos des papillons, parce que sur la brochure, on avait mis une effraction, vous avez vu, et des papillons. Bon alors tout le monde sait que les papillons, c'est le symbole de la transformation. Mais Michel Benoît m'a rappelé hier, enfin m'a appris hier, qu'Elisabeth Kübler-Ross racontait que les enfants qui étaient envoyés en camp de concentration avaient gravé sur les murs des fours des papillons. Et il disait, on peut brûler les chenilles, mais on ne peut pas brûler les papillons. Et donc, ou notre âme, c'est ça ? Les papillons que nous sommes, voilà. Donc c'était pour rebondir sur l'âme qui continue à voler même au-delà de la mort.